Alors, notre présentation va se réaliser donc en deux temps. Alors, en ce qui me concerne, pour ma part, je vais vous présenter déjà une partie des actions qui sont menées par le Naturoparc. Alors, Naturoparc est un parc qui ne parle peut-être pas forcément à tout le monde, ou tout moins peut-être que vous nous connaissez sous notre ancien nom, à savoir le centre de réintroduction. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit donc d'un parc animalier privé qui est situé donc en Alsace et plus particulièrement à Unavir. Alors sachez que ce parc a une particularité, c'est d'avoir travaillé dès le départ sur des programmes de réintroduction comme celui de la cigogne blanche en 1976, celui de la loutre en 1998 qui a fait couler beaucoup d'encre, et enfin celui du grand hamster en 2018. Alors sachez que ce projet grand hamster s'est réalisé en plusieurs étapes. Déjà au départ, par un soutien financier d'une association, Sauvegarde Faune Sauvage, qui est l'une des associations pionnières au niveau de la conservation de cette espèce. Par la présentation au public dès 2010, qui a permis d'ailleurs à ce jour de sensibiliser près de 1 million de visiteurs. La recherche aussi également par un partenariat qui a été développé avec le CNRS, qui a permis entre autres, comme on le voit sur cette image, d'étudier le grand hamster durant la phase d'hibernation. Et enfin, donc, la mise en place d'un élevage conservatoire en 2017 dans le cadre du PNA. Alors effectivement, donc, grand hamster, c'est un rongeur qui est très peu connu, et pourtant, il faut savoir que c'est quand même l'un des rongeurs les plus menacés de France. Alors c'est un rongeur qui est quand même assez spécifique, parce que déjà, il n'est présent que sur la plaine d'Alsace, donc c'est-à-dire qu'on ne peut le rencontrer nulle part ailleurs. Alors c'est un rongeur qui, historiquement, vit dans les steppes d'Europe centrale, et c'est-à-dire que maintenant, il a plutôt élu domicile dans les zones agricoles. Alors, un rongeur également aussi omnivore, 80% de son régime alimentaire est constitué de végétaux, également de céréales, 20% restant, ça sera plutôt des insectes, des vers de terre, et même parfois aussi consommation d'autres rongeurs. Alors, un effondrement, parce qu'effectivement, le grand hamster est un animal particulièrement menacé à l'heure actuelle, alors que ce soit au niveau européen et plus particulièrement dans la partie ouest de l'Europe, son aire de répartition a diminué très rapidement au cours des dernières décennies. Alors, au niveau local, la situation est, on va dire, quasiment identique, voire même peut-être pire, puisqu'en moins d'un siècle, c'est 90% de son aire qui a disparu. Donc une disparition extrêmement rapide qui s'explique par plusieurs raisons. Déjà le piégeage qui a eu lieu jusqu'en 1993, donc c'est quand même relativement récent. C'était une espèce qui était, je vous le rappelle, considérée alors comme une espèce nuisible. La dégradation de son environnement, avec notamment le développement de la monoculture, et plus particulièrement en Alsace, le développement de la maïsiculture. L'urbanisation, mais également aussi le développement autoroutier qui fragmente chaque jour un peu plus son territoire. Alors, avec une population qui est actuellement estimée à moins de 1000 individus, nous savons pertinemment que nous sommes en dessous du seuil de survie que l'on estime à peu près autour des 1500 à l'heure actuelle. C'est pourquoi des actions de conservation sont devenues indispensables de nos jours. Alors, l'élevage conservatoire qui a été réalisé au Naturoparc a une capacité d'environ 100 hamsters. Alors, il s'agit d'un espace avec possibilité donc de réguler que ce soit la température ou aussi tout ce qui est photopériode. Alors, ce sont des paramètres qui sont quand même particulièrement importants, notamment pour les espèces hibernantes. Ça peut avoir bien sûr un impact au niveau de la reproduction par la suite. La base alimentaire, on va dire, est constituée d'aliments déshydratés, de céréales, mais également aussi de végétaux et de légumes. Alors la sélection des couples s'est effectuée au départ de façon relativement moderne, de façon un petit peu connectée. C'était pour voir si vous étiez encore un peu attentifs. Du speed dating. Alors ça marchait relativement bien. Comment ne pas résister à une telle annonce? Forcément, lorsqu'on propose de telles choses, généralement les femelles ne résistent pas. Mais assez bizarrement, l'ONCFS a refusé cette méthode, puisque soi-disant que ça ne rentrait pas dans le cahier des charges. Bon, on n'a toujours pas compris pourquoi. Alors, ils nous ont obligés de revenir à une méthode un petit peu plus traditionnelle par l'utilisation notamment de logiciels de gestion d'élevage qui ont permis une meilleure traçabilité de nos individus, mais également aussi sur le plan génétique, une meilleure sélection. Alors, une fois sélectionnés, les animaux seront mis en contact. Alors, généralement, à partir de la mi-avril, et ce pour une durée de 8 jours. Alors c'est une période qui est quand même particulièrement critique, une période difficile, tout particulièrement pour le mâle, il faut quand même le dire. Alors, on en a parlé hier, avec le vison, on disait que c'était généralement plutôt les mâles qui étaient soit passifs, soit agressifs. Bah là, excusez-moi de vous dire que c'est l'inverse. Ce sont les femelles qui sont particulièrement agressives. Et encore, je pèse mes mots. Alors donc, une période très dure, ce qui va nous demander une attention toute particulière durant au moins, on va dire, les premières 24 heures. Au moindre signe d'agressivité de la part de la femelle, le mâle sera immédiatement séparé. Ça ne sert à rien d'insister, sinon ça sera direction l'écarissage. Et les vautours, effectivement, ça peut être un moyen de diminuer l'effet de serre. Alors donc une observation, comme je disais, donc très très importante. Alors si jamais on a des signes d'agressivité, on va faire une deuxième tentative. On préfère en ces cas-là séparer l'individu, le mâle, pendant la nuit. On refera alors une deuxième tentative dès le lendemain. Et généralement, au bout du deuxième, voire du troisième jour, il y a forte chance pour que la femelle alors accepte le mâle. Donc il partira alors pour une période de 8 jours. Alors si tout se passe bien, normalement 18 jours en moyenne, donc après la mise en contact, les femelles vont mettre bas, de 1 à 9 petits, avec une moyenne généralement qui oscille d'à peu près autour des 5 jeunes. Alors durant toute cette période, bien sûr, c'est une période relativement critique, sensible, donc une tranquillité, une discrétion qui est devenue vraiment obligatoire au niveau des élevages. Alors, ça va aussi, bien sûr, nous demander aussi certaines adaptations, notamment alimentaires. Puisque durant toute la période de reproduction, il faut savoir que l'alimentation de base va être enrichie par un apport en protéines, notamment des croquettes ou des vers de farine que nous allons rajouter à l'alimentation. Alors pourquoi une telle chose ? Tout simplement pour limiter d'une part les risques d'avortement, mais également aussi limiter l'agressivité de la femelle envers ses propres petits. Alors une séparation qui aura lieu assez tôt, puisque je vous rappelle qu'à la base, normalement, le grand hamster est un animal qui est solitaire, vie de couple très difficile, vie de famille identique. Alors la séparation donc, de la mère aura lieu vers l'âge de 1 mois et celle des jeunes vers l'âge un mois plus tard. Donc très vite, on va dire que les hamsters vont reprendre leur instinct sauvage, c'est-à-dire leur instinct solitaire et le caractère particulièrement agressif. Alors, l'hibernation, période difficile, une période qui est quand même assez délicate pour le grand hamster, puisque déjà, elle est aussi un petit peu inhabituelle, puisque c'est une hibernation qui n'est pas totale. Elle est ponctuée de réveils qui ont lieu à peu près en moyenne tous les 10 jours. Alors, tout comme pour la reproduction, c'est vraiment une période sensible, donc ils vont nous demander d'intervenir le moins possible au niveau de l'élevage. C'est pour cela que nous ferons en sorte d'essayer de faire en sorte que les cages restent le plus propres possible, en supprimant par exemple tout ce qui pourrait la dégrader assez rapidement, notamment avec l'apport de légumes ou de produits frais. Alors, sexage aura lieu lorsque les jeunes auront repris une activité normale, c'est-à-dire on se situe à peu près vers la mi-mars. Ils seront placés donc dans des tubes transparents qui vont permettre la manipulation en toute sécurité. Je vous rappelle que c'est quand même une espèce qui est quand même particulièrement agressive. Ils seront ensuite identifiés par la pose d'un transpondeur, ce qui permettra le suivi, que ce soit en élevage, mais également en nature par la suite. Alors la réintroduction va nécessiter également aussi bien sûr des préparatifs, notamment des grands changements alimentaires. Alors en effet, disparition progressive de tout ce qui est alimentation déshydratée au profit d'une alimentation plus naturelle, avec une grande diversité au niveau des légumes, de produits extrêmement frais. Pourquoi ? Parce que ça va être tout simplement l'apport en eau, alors qu'habituellement ils avaient l'habitude d'avoir cet apport en eau liquide par des distributeurs. L'eau liquide sera définitivement supprimée 1 mois avant les lâchers. Alors nous venons donc de voir les différentes étapes qui vont permettre justement à la préparation à la réintroduction. Alors bien sûr, tous les animaux ne seront pas destinés à la réintroduction puisque une partie de ces individus seront utilisés en tant que reproducteurs dès l'année prochaine. Alors, d'autres aussi feront l'objet d'échanges, que ce soit avec les autres centres d'élevage, à savoir Sauvegarde Faune Sauvage ou encore le CNRS de Strasbourg, et d'autres encore l'objet d'échanges avec d'autres parcs pour développer à leur tour la sensibilisation. Alors, pour terminer, donc, petite citation qui montre encore une fois, on va dire, l'utilité et l'importance de la sensibilisation. Je laisse maintenant la parole à Julien.
Merci Anthony. Donc, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui deviendra l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, l'année prochaine, est historiquement en charge du programme de renforcement et d'élevage dans le cadre du plan national d'action. Et on verra dans ma présentation que cette préservation de l'espèce s'est progressivement appuyée sur des dynamiques collectives et participatives, en particulier avec le monde agricole. Donc, on trouve effectivement l'espèce uniquement en Alsace, actuellement dans trois grands secteurs qui sont d'une part situés à l'ouest de Strasbourg et d'autre part à 40 km au sud de Strasbourg. Ce sont des populations qui sont déconnectées les unes des autres. Et dans chaque zone de présence, on trouve plusieurs sous-populations qui sont aussi partiellement déconnectées les unes des autres. Aujourd'hui, l'espèce occupe une aire de répartition qui représente environ 2500 hectares. Alors, pour préserver l'espèce, la stratégie de préservation s'appuie sur la reconnexion des sous-populations au sein de chaque zone. Et pour y parvenir, pour tendre vers des populations viables, le premier élément de la stratégie, c'est de remettre en place un maillage de cultures dites favorables à l'espèce, procurant alimentation et abri contre les prédateurs. Et le deuxième aspect, c'est que deux tiers des populations sauvages actuelles sont présentes en très faible densité et nécessitent d'être renforcées. Donc le deuxième élément, effectivement, Anthony vient d'en parler, c'est le lâcher d'animaux d'élevage dans les secteurs où les populations sont fragiles. Alors aujourd'hui, nous avons chaque année entre 300 et 500 hamsters qui sont lâchés dans des parcelles dédiées, mises à disposition par des agriculteurs dans 3 à 5 communes. Et une dizaine d'agriculteurs chaque année travaillent avec nous. Et chaque année, on a des agriculteurs différents qui travaillent avec nous. Cette situation, donc laisser du blé non récolté pour les lâcher et entourer les parcelles de clôture électrique contre la prédation, ça n'aurait pas été envisageable il y a encore 10 ans. Parce qu'effectivement, auparavant, le hamster, c'était vraiment considéré comme un ennemi. Dès les années 50, il y avait une lutte coordonnée et très sophistiquée, de plus en plus sophistiquée, qui avait été mise en place, donc coordonnée par l'État. Et on peut le comprendre parce qu'il y avait quelques centaines de milliers, voire un million de hamsters en Alsace jusque dans les années 50-60. Et certaines cultures à haute valeur ajoutée, comme le chou, pouvaient être endommagées à hauteur de 30% de la récolte. Et dans les années 70, dans certains bulletins techniques, par exemple là vous avez un exemple, donc le hamster était effectivement qualifié de dangereux rongeur, et dans ces bulletins, les prédictions de la disparition du hamster étaient formulées. Donc en fait, on estimait que dans les années 80-90, on aurait gagné, et on n'aurait plus du tout. Heureusement, ils se sont trompés dans ces prévisions. Alors, cette lutte coordonnée et la dégradation de l'habitat dont Anthony a parlé, a conduit à une diminution progressive de la répartition de l'espèce. On est effectivement passé de 300 communes de présence au début des années 70 à environ 80 communes de présence autour des années 2000. Ça a conduit à, comme ailleurs en Europe, au statut de protection de l'espèce qui est passé d'un coup de nuisible à protégé en 93. Donc il faut imaginer en particulier pour la population agricole l'incompréhension. Et ça a conduit aussi à la mise en place d'un premier plan national de préservation en 2000, au sein duquel était programmé un programme d'élevage et de renforcement, donc il a démarré en 2003. Malgré la mise en place de ces actions, le déclin de l'espèce s'est poursuivi et l'association Sauvegarde Faune Sauvage, que Anthony a montré précédemment à l'écran, a déposé plainte contre la France auprès de la Commission européenne, donc en 2006. Et à partir de 2007, un dialogue régulier s'est instauré entre la France et la Commission européenne, où la France devait se justifier des mesures en place, et progressivement les mesures de préservation se sont renforcées, marquées en particulier par un premier vrai plan national d'action en 2007 et la mise en place de mesures agro-environnementales individuelles qui ont progressivement couvert des centaines d'hectares, mais c'était avec un schéma, on va dire, traditionnel au niveau des MEE. Alors, malgré ces actions, il y avait un risque dans le cadre de ce contentieux de condamnation par la Cour de justice de la Commission européenne, un risque d'amende de plus en plus élevé. Et afin d'éviter une lourde amende et cette condamnation, la ministre de l'époque avait demandé un renforcement des mesures de protection de l'habitat et de restauration des populations en 2009. Et afin d'éviter des contraintes, parce que tous les acteurs qui sont liés au hamster, donc que ce soit les aménageurs ou les agriculteurs, dans le cadre de ce contexte de contentieux avait vraiment des craintes de mise en place de contraintes réglementaires et de mise sous cloche un peu du territoire hamster. Et donc, pour éviter ça, des agriculteurs se sont engagés en faveur de l'espèce. Et ça, c'était vraiment une première en France. En 2010-2011, une dizaine d'agriculteurs ont donné des parcelles entières, ont accepté que ces parcelles soient en blé non récolté, ont contribué à la mise en place d'un programme scientifique donc pour améliorer les protocoles de lâcher. Et donc, on a testé effectivement l'effet du blé non récolté, l'effet des clôtures sur la survie et la reproduction des hamsters. Et fort de résultats très probants, un nouveau protocole a été validé. Mais bon, malgré tous les efforts qui ont été mis en œuvre entre 2007 et 2010, la France a quand même été condamnée en 2011 par la Cour de justice pour manquement à ses obligations vis-à-vis de la directive Habitat. Et à partir de là, la pression sur l'ensemble des partenaires du plan a considérablement augmenté parce que s'il y avait dans les années qui suivaient une deuxième condamnation, on pouvait avoir à payer une amende et des astreintes journalières qui pouvaient s'élever à 150 millions à 200 millions d'euros par an. Donc, ce qui était largement supérieur au budget annuel du programme Hamster. Et donc, dans ce contexte-là, la Chambre d'agriculture d'Alsace a dit oui au Hamster. En fait, ils se sont clairement engagés en faveur de l'espèce. On venait de mettre en place un nouveau protocole de renforcement. Donc, dans ce cadre-là, des agriculteurs se sont dit, si la profession y va, un nouveau protocole existe, on peut y aller. Et donc, des agriculteurs se sont pour la première fois aussi affichés dans la presse quotidienne régionale comme acceptant le retour de cet ancien ennemi. Et donc, c'était déjà une première victoire en termes de gouvernance au sein du programme. Un autre élément, c'est qu'en 2012, en réponse à la condamnation de la Commission européenne qui jugeait que les conditions de protection de l'habitat étaient insuffisantes, deux arrêtés ministériels sont venus préciser la protection de l'habitat de l'espèce, avec d'une part la création de trois zones de protection strictes d'environ 9000 hectares, et d'autre part une protection dynamique qui était liée à la présence de l'espèce. Là où l'espèce était localisée, là où on trouvait des terriers dans le cadre des comptages, ça créait des zones protégées. Et donc avec ces nouveaux arrêtés de protection, malheureusement, qui étaient nécessaires, mais le hamster est redevenu un ennemi, non pas tant pour les agriculteurs que pour les aménageurs, car un terrier, c'était une contrainte. Bon, les agriculteurs sont quand même, un peu liés aux élus, et ils sont un peu solidaires des élus, donc il y a eu plusieurs articles de presse et plusieurs prises de position. Donc le hamster sème la zizanie, les agriculteurs montent au créneau. Il y avait des élus qui étaient aussi députés qui étaient très très en colère contre ce nouveau contexte réglementaire. Et nous, on craignait aussi une chose, c'est quand on veut lâcher des hamsters, on peut en lâcher là où l'espèce est déjà présente, mais on peut aussi vouloir aller 300 mètres plus loin pour étendre progressivement une zone de présence. Et donc aller là où l'espèce avait disparu au cours des 3-4 années précédentes. Et les communes qui avaient encore l'espèce chez elles, qui avaient fait beaucoup d'efforts depuis 2007-2008, craignaient d'être pénalisées par ces efforts, car c'était les seules dans lesquelles l'espèce était encore présente. Et celles qui n'avaient plus de hamster depuis 10 ans, étaient contentes parce qu'elles se sont dit, c'est arrêté, on s'en fiche, on n'a plus de contraintes, plus de hamster. Donc, est-ce qu'il y aurait eu des conséquences sur le programme de renforcement ?
2 minutes.
Oui. Donc, je vais essayer d'être rapide. Alors, il y avait quand même un risque d'amende très très élevé, et donc les agriculteurs se sont quand même mobilisés. Il y a une mesure qui était vraiment innovante, qui a été mise en place, c'est une MAE collective, où les agriculteurs ont créé des groupes de travail, des groupes collectifs. Collectivement, ils s'engagent à améliorer l'habitat, à accepter des lâchers et à se réunir une fois par an à l'automne pour définir ensemble l'habitat, le maillage de culture favorable de l'année suivante. Et l'ensemble des agriculteurs qui sont dans ces zones sont réunis aussi en association maintenant, qui s'appelle Agriculture et Faune Sauvage d'Alsace. Et ça nous facilite beaucoup la négociation des lâchers parce qu'auparavant, on allait dialoguer avec un agriculteur. Maintenant, dès lors qu'on a défini les sites de lâchers avec la DREAL, qu'on a la validation de ces sites avec les mairies concernées, on peut aller rencontrer les agriculteurs engagés dans cette association, aller voir la Chambre d'agriculture et aller voir cette nouvelle association pour négocier. Et l'élément qui est vraiment super intéressant, alors j'ai peut-être un peu débordé, mais qui est vraiment super intéressant, c'est que cette dynamique collective, elle a fait passer les agriculteurs de passifs, d'agents passifs et très critiqués, à agents actifs, moteurs de la préservation. Ils ont travaillé à la nouvelle MAE collective en 2018, qui est beaucoup mieux pour l'espèce. Ils participent aussi d'eux-mêmes, de leur plein gré, on va dire, avec la Chambre d'agriculture, à des expérimentations à grande échelle de nouvelles techniques agricoles. Ils ont même créé une CUMA pour acheter du matériel agricole permettant des techniques innovantes favorables à l'espèce. Et il y a un mois, pour la première fois, des agriculteurs français sont allés voir leurs collègues belges, allemands et hollandais pour aller leur dire ce qui se passait chez eux. Et donc l'ensemble de ce contexte, c'est très bien pour la suite parce que ça permettra d'améliorer encore les renforcements. On a des problèmes de persistance. On va essayer de travailler avec les chasseurs pour voir si on peut lâcher des hamsters en même temps que les perdrix pour faire du gagnant-gagnant avec d'autres espèces. Et enfin, la grande nouveauté, c'est que Naturopark, qui pour l'instant était uniquement éleveur, va, à partir de 2020, mettre en œuvre les lâchers. L'OFB va travailler sur la stratégie de renforcement avec la DREAL et travailler sur de la recherche avec le CNRS sur les protocoles. Et la Chambre d'agriculture sera en charge de la recherche des parcelles de lâchers. Donc je termine cette présentation effectivement par une intervention de Jacques Ibor, qui est maire d'un village et agriculteur, membre des collectifs. Vous verrez son témoignage.
Donc, on me dit de faire une conclusion. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, j'ai près de 70 ans. Et de mon jeune âge, j'ai capturé beaucoup de hamsters, parce que c'était un nuisible. Aujourd'hui, elle est protégée par la Convention de Berne, ce hamster. Et je pense que je vais tout faire, tout ce que je peux, également avec les agriculteurs de mon village. On a réussi à faire cette convention collective et on va tout faire pour qu'il y ait une nouvelle population potable dans les années à venir. En même temps, je vais vous dire, on fait aussi pour la petite faune. Dans le temps, il y avait plus de perdreaux, de faisans, de lièvres chez nous. Et on voit, moi qui sillonne régulièrement la plaine, on voit à nouveau des petits lièvres, des petits faisans, et vous verrez, on aura à nouveau un peu de tout dans notre plaine.
Voilà. Merci. Hop là, c'est ça.
Je voulais juste dire, je voulais juste dire une petite chose, si vous êtes intéressé par le hamster, on a créé une chaîne YouTube sur le site de l'ONCFS, chaîne hamster. Vous avez des vidéos sur les lâchers, les suivis, travailler avec les agriculteurs. Pour apprendre plein de choses en vidéo et montrer ça à vos enfants, vos amis et tout ça. Voilà.